Pardon, par l'intermédiaire de la lettre aux Thessaloniciens. C'est la dernière lettre que j'ai lue, et donc du coup j'en ai tiré quelques encouragements que je voudrais vous partager. Donc pour vous donner un petit peu le contexte un Thessalonicien est probablement la première, toute première lettre que Paul écrit. Paul et Silas s'étaient rendus à Thessalonique lors de leur voyage missionnaire, on le lit dans Acte 17, et après un mois à évangéliser, beaucoup de personnes de la ville, des juifs, des non-juifs, et même des femmes éminentes qui craignaient Dieu, se sont converties et ont ainsi constitué une église. Alors, cependant, il y a certains juifs incrédules à qui cela ne plaisait pas beaucoup. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont provoqué des attroupements, ils ont semé le trouble et ils ont été même jusqu'à devant les magistrats en disant que les chrétiens, ils agissaient contre les édits de l'empereur, en disant qu'ils avaient un autre roi que celui en place, et ce roi, c'était Jésus. Donc, le problème, c'est que les magistrats, tout ça, etc., ça ne leur a pas plu, parce qu'ils se sont dit, on va se faire détrôner, tout ça. Et donc, ça a occasionné une forte persécution contre les chrétiens, et ça a obligé Paul et Silas à fuir la ville précipitamment. Donc, la lettre aux Thessaloniciens, c'est donc un moyen pour Paul de reprendre contact avec cette jeune église de Thessalonique, une jeune église qu'il a dû quitter rapidement. Et cette jeune église, elle avait encore des questions et elle avait besoin d'encouragement. Je pense qu'on a tous besoin d'encouragement dans notre foi. On a tous besoin, comme on l'a chanté, d'être affermis, d'être fortifiés dans notre foi. Alors au début de sa lettre, Paul, il se rappelle la foi agissante, l'amour actif et la fermeté de leur espérance. Trois caractéristiques ici, la foi, l'amour, l'espérance, qui sont la marque du vrai croyant. On le lit dans 1 Corinthiens 13 que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Frères et sœurs, pensez-vous avoir ces trois qualités, la foi, l'espérance et l'amour? L'église de Thessalonique, elle avait beau être une jeune église, c'était un modèle de foi pour tous les croyants. Car les Thessaloniciens avaient reçu l'évangile avec puissance. Tous ceux qui entendent et qui mettent en pratique la parole de Dieu reçoivent cette puissance qui change la vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon témoignage, la puissance de Dieu change les vies. Et la manifestation de cette puissance dans nos vies, elle se fait par l'Esprit de Dieu que l'on reçoit, parce qu'il parle à nos cœurs. Quand il nous convainc que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de lui, de Jésus, quand elle se manifeste, cette puissance, quand malgré les persécutions, nous tenons ferme, ou encore quand nous partageons la bonne nouvelle à quelqu'un qui ne la connaît pas. Parfois, je me demande un peu comment les autres, les gens qui m'entourent, me perçoivent. Est-ce qu'ils voient en moi un croyant fidèle et engagé? Est-ce qu'ils voient la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans ma vie? Entre guillemets, est-ce que ma vie confirme ou est-ce qu'elle contredit les croyances que je prétends avoir? Vous connaissez peut-être le graphique, la courbe de la foi, et cette courbe, elle nous montre que dans la vie de foi, il y a des hauts et il y a des bas. Alors la courbe, elle peut être, comme on l'appelle, ascendante quand elle monte, et elle peut être descendante quand elle monte, mais elle peut aussi stagner, donc rester sur un point, sur une barre, sur une ligne droite. Mais d'une manière générale, la courbe de la foi, quand on la regarde d'une vue d'ensemble, la courbe de la foi, malgré les ascendants et les descendants, elle doit quand même être majoritairement ascendante. Parce que la Bible, ce que nous encourage la Bible, la vie de la foi doit être une progression. Un Thessalonicien nous parle de témoignage, de fidélité. Je ne sais pas, vous, quelle est l'étendue de votre témoignage dans votre entourage? Quel est le rayonnement de votre foi? Mais je sais que dimanche après dimanche, je vous vois tous, mes frères et sœurs, je revois les mêmes personnes et on s'assemble tous ensemble ici dans la maison du Seigneur. Et je vois qu'on éprouve tous la même joie à être ici, autour, devant le Seigneur. Alors, je voudrais te remercier ce matin parce que à ta manière, tu es un sujet d'encouragement pour moi et tu es un sujet d'encouragement pour ton frère et ta sœur qui se trouvent à côté de toi. Comme Paul, je veux rendre gloire et grâce à Dieu pour la foi qui est en toi, cette foi que le Seigneur t'a donnée. Et merci parce que tu manifestes de la fidélité au Seigneur et de la fidélité en venant ici chaque dimanche pour écouter et pour être devant Dieu. 1 Thessaloniciens, il nous rappelle aussi ceci, c'est que nous sommes des êtres choisis. Alors le sujet de l'élection, il est parfois compliqué parce que c'est difficile à la fois de concilier la souveraineté de Dieu qui l'amène à nous choisir et la responsabilité de l'homme qui l'amène à choisir de suivre Dieu. En gros, nous sommes choisis, donc on n'a pas trop le choix, on est choisi, c'est Dieu qui nous a choisis, mais en même temps, on choisit de suivre Dieu. Donc, ces deux vérités qui nous disent que Dieu nous choisit, donc ça nous conduit à être reconnaissants, et en même temps, nous, on choisit de suivre Dieu et ça nous pousse à lui plaire. Donc, garder la foi, manifester de l'amour, être fidèle, plaire à Dieu, ça nous demande de fournir un minimum d'effort, un minimum de discipline. Joseph, la semaine dernière, nous disait que nous sommes dans les temps de la fin et qu'il est temps de réagir, car Christ vient pour juger la terre et il jugera tous les hommes. Alors, tournons-nous vers Dieu de tout notre cœur, ayons du zèle pour le servir et soyons prêts. Nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra, c'est pourquoi il faut être prêt à tout moment. 1 Thessaloniciens 2, verset 3 nous dit « Si nous invitons les hommes à croire, c'est parce que Dieu nous en a jugés dignes. » Dieu t'a choisi, il t'a élu, il t'a jugé digne. Quand on parle de dignité, c'est qu'on on te confie une charge, un titre, une fonction qui te donne un rang imminent. Eh bien, l'Évangile t'a été confié, comment prends-tu à cœur cette responsabilité ? Moi, je suis toujours troublé par cette phrase de Paul qui dit qui encourage les autres à devenir des imitateurs de sa propre personne. Parce que je dois bien reconnaître que quand je regarde à ma vie, je ne suis pas toujours un exemple, je ne suis pas toujours un modèle. Pourtant, si je veux amener d'autres personnes à Christ, la Bible nous dit, et elle m'encourage à devenir ce modèle, cet exemple pour les autres personnes qui m'entourent. 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 12 nous dit que nous devons avoir au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils nous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Lors de nos vacances, dans le Jura avec Elode, il y avait un papa qui était en train de confectionner une étoile de mer sur la plage, et il disait à son fils que le dessin prendrait vie vraiment en fonction du contraste qu'il allait leur donner. Qu'il y avait vraiment une importance dans le contraste, contraste de lumière, contraste de forme, tout ça, etc., machin et tout. Mais j'étais en train d'écouter ce papa, et en fait, j'étais en train de me dire que dans la vie d'un chrétien, c'est un petit peu pareil aussi. En fait, c'est ce qui contraste avec votre témoignage qui saute le plus vite aux yeux. Et c'est bien souvent sur ça qu'on vous attaque. S'il y a dans votre vie un contraste, quelque chose qui n'est pas raccord avec la foi que vous avez ou avec les convictions que vous avez, eh bien, tout ça fait ressortir la mauvaise chose, et donc ça saute aux yeux. Et donc, il suffit parfois de pas grand-chose, je dirais même d'une seule chose, pour contraster et impacter tout ton témoignage. Si nous avons été jugés dignes, vivons alors d'une manière digne. 1 Thessaloniciens 2, 12 nous dit « Nous avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager et de vous inciter à vivre d'une manière digne. Nous avons à nous comporter d'une manière sainte, juste et irréprochable. » Irréprochable, à mes yeux, c'est un mot vraiment fort parce que qui peut dire qu'il est irréprochable dans sa conduite ? Avec un mot comme irréprochable, je me pose parfois la légitimité d'être devant vous et de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Est-ce que je suis irréprochable ? Je suis digne parce que Dieu m'a choisi, mais il m'appelle à être irréprochable et pourtant je ne le suis pas encore. Comme j'ai pu lire l'autre jour avec les enfants dans leur petit moment avec Dieu, heureusement pour nous, Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous utiliser. Et même dans nos imperfections, Dieu peut nous utiliser. Dieu regarde à nos cœurs, il regarde à notre attitude et il regarde à nos intentions. Nous sommes encouragés dans 1 Thessaloniciens à aller de progrès en progrès et à progresser particulièrement dans la sainteté. On le voit au chapitre 4. Il nous dit « Gardez vos corps dans la consécration et la dignité ». Encore une fois, choisis, mais nous choisissons Dieu. jugés dignes, mais nous devons nous comporter d'une manière digne. Nous sommes des enfants de lumière et des enfants du jour, destinés à la possession du salut et non à la colère. Le retour du Seigneur devrait être pour nous un sujet d'encouragement et cela devrait nous motiver à partager et à faire connaître le nom de Jésus tout autour de nous. Comme les Thessaloniciens, nous devrions avoir une foi qui se fait retentir, non seulement pas en Achaïe, etc., dans les régions voisines, mais tout autour. Les gens avaient entendu parler de la foi des Thessaloniciens simplement parce que leur foi était agissante, comme on a pu le voir au début. 1 Thessaloniciens 5, verset 11 nous dit « Encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement ». S'encourager, c'est se donner du courage, c'est se donner de l'assurance. Et c'est ce que je voudrais vous faire, c'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est vous donner un peu du courage. Je vais vous donner une image que j'ai en tête, c'est une image des sportifs que l'on encourage. Vous savez, sur le Tour de France, des fois, on voit quelqu'un courir comme ça après un cycliste et lui dire « Allez, 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 on y va, on y va !» Et donc, du coup, c'est que sur une courte période, mais ce cycliste ne s'en trouve pas moins assuré, réconforté, cela lui donne du courage et ça le booste peut-être à pédaler davantage et plus fort. Ça se voit aussi dans les marathons où les personnes ils courent un petit peu à côté des gens pour les encourager, quoi. Mais on voit aussi que dans les stades, de toute façon, les sportifs ont besoin d'encouragement pour aller plus loin et puis pour avancer plus vite et plus fort. Alors, ma question, c'est comment s'encourager entre chrétiens? Comment être un sujet d'encouragement et comment vraiment peut-être dans des situations particulières encourager un chrétien, un frère qui en a besoin? Par un mot, par un geste, par une attention bienveillante ou peut-être une prière? J'espère que nous pouvons être assez alertes pour voir ce qui peut se passer aussi dans la vie de nos frères et sœurs et de pouvoir partager avec eux peut-être quelque chose, un encouragement dont ils vont avoir besoin et être là sur leur route pour être quelqu'un qui va les rebooster. S'édifier, ben ça vient du mot édifice. Donc l'édifice, c'est quelque chose qu'on construit, c'est quelque chose qu'on aide à bâtir et à faire grandir. C'est la volonté qu'on va avoir ici aussi entre frères et sœurs et c'est pour ça qu'on s'assemble tous les dimanches. Et bien, c'est de cette manière qu'on s'édifie, qu'on se construit mutuellement. Et donc, se fortifier, ça me faisait penser aussi à ce petit emoji là qu'on envoie des fois avec un petit muscle comme ça, qu'on envoie quand il y a quelqu'un qui a besoin de force. Et donc, du coup, que vous puissiez avoir ça en tête, de pouvoir envoyer peut-être des petits emojis comme ça à vos frères et sœurs quand ils ont besoin d'être fortifiés, si vous décelez un problème ou quelque chose chez eux, que vous puissiez être assez alerte pour encourager cette personne et la supporter, la soutenir. Alors, comment dans cette nouvelle année qui commence, va-t-on pouvoir être ce que je viens de vous partager, quelqu'un qui édifie, qui encourage et qui fortifie? Eh bien, on l'a vu, un des moyens, c'est d'avoir un témoignage. C'est-à-dire que par votre témoignage, par la manière dont vous allez vivre et agir, les autres vont être encouragés. Votre présence ici, déjà, est un encouragement, c'est un témoignage. Mais peut-être qu'on peut le faire aussi d'autres manières, de manière différente, en allant visiter quelqu'un, en allant voir quelqu'un, en priant avec lui. Et donc, ce que j'aimerais que cette année, Dieu fasse dans ma vie encore, c'est transformer mes défaites en victoires. Je ne sais pas si dans votre vie, il y a encore des choses, des défaites, des choses qui ne vont pas, des choses qui traînent, des choses à régler, des choses qui vous empêchent d'avancer avec le Seigneur dans votre courbe. Peut-être que vous arrivez aussi à un stade dans votre foi où est-ce que vous stagnez un petit peu. Eh bien, j'aimerais que cette année soit aussi pour vous l'occasion d'être challengé. Je trouvais qu'il y avait un petit peu des similitudes, là, quand on reprenait l'école, je me disais, il y avait un peu des similitudes entre l'école et la nouvelle année. Parce qu'en fait, l'année, elle est divisée un petit peu en deux, il y a deux reprises, en fait. Il y a la nouvelle année, et il y a la nouvelle année scolaire et associative. Et je trouvais que c'était un petit peu aussi le temps, bah, pour les collégiens, tout ça, etc., de se dire, allez, cette année, on y va, cette année, j'ai une bonne moyenne, cette année, je me donne à fond, etc. Et bien, du coup, aussi, nous, cette année, est-ce qu'on peut chercher, justement, à faire de nos défaites des victoires par l'Esprit de Dieu qui vit en nous, par le fait de s'encourager mutuellement les uns les autres, de s'édifier et de se fortifier. Et du coup, je vais finir avec la fin de Thessaloniciens. Donc, 1 Thessaloniciens 5, nous avons les dernières recommandations de Paul aux Thessaloniciens, mais qui nous iront très bien aussi. Donc, je vous lis ça dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 12. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais cherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Frères et sœurs, priez pour nous, saluez tous les frères et sœurs par un saint baiser. Je vous en supplie par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ce qui est intéressant aussi dans 1 Thessaloniciens, c'est que c'est un livre qui est ponctué de prières. Donc c'est un livre où est-ce que Paul va édifier au début, il va faire une prière de reconnaissance, après il va faire une prière de persévérance, et à la fin il va donner une prière d'encouragement. Et donc du coup je vous invite à relire aussi cette lettre aux Thessaloniciens, parce qu'elle est riche d'encouragement. Je ne sais pas si vous avez une Bible d'études comme moi aussi, mais il y a un memento, par exemple, de ceux qui veulent encourager, et ça reprend quelques recommandations que Paul donne. Mais on voit que là, c'est tout un programme, parce qu'il y a pas mal de choses à faire quand on voit qu'il faut avertir ceux qui sont dans le désordre, réconforter ceux qui sont abattus, soutenir les faibles, faire preuve de patience envers tous, de se conduire de manière irréprochable pour arriver à une sainteté totale. Ça, c'est un gros programme qui est devant nous. Et donc, je pense que nous sommes capables de le faire parce que, comme on l'a vu, Dieu nous a choisis, il nous a élus, il nous a rendus dignes. Et du coup, que cette dignité, on puisse vraiment la prendre, se l'accaparer et qu'on puisse chercher vraiment tous ensemble à se fortifier et à se serrer les coudes pour que du coup, on puisse faire des progrès tous ensemble, avancer de progrès, ensemble et avec le Seigneur, devant le Seigneur. Voilà, je vous propose de prier, on va reprendre un chant avant d'avoir un temps de prière, et après on partagera la scène.